Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. À suivre dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos réactions. Dans quel état d'esprit êtes-vous à deux jours du retrait effectif du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la CDAO? On en parle, mais d'abord le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan Gomez et à tout de suite. Mais pour l'heure, nous irons à Beyrouth, au Liban. Le Liban qui accepte un report du retrait israélien du sud de son territoire alors que l'armée israélienne a ouvert le feu dans plusieurs localités du sud Liban, faisant 22 morts hier. En République démocratique du Congo, reprise des tirs ce matin à Goma après une nuit d'accalmie. Des combattants du M23 sont présents dans certains quartiers. Les habitants fuient la ville. Des scènes de pillage nous sont rapportées ainsi qu'une tentative d'évasion de la prison dans la capitale du Nord Kivu. Ce lundi 27 janvier qui marque aussi les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, RFI se mobilise tout au long de la journée. Enfin, réunion capitale des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui doivent se prononcer sur le renouvellement des sanctions contre la Russie. Et on débute ce journal au Liban, où l'armée israélienne obtient un délai. Armée censée se retirer hier, dimanche, au plus tard, du sud du pays. Finalement, l'accord de cessez-le-feu a été prolongé jusqu'au 18 février. Le gouvernement libanais qui a accepté ce matin cette prolongation du retrait israélien après médiation américaine. Alors qu'hier, l'armée israélienne a ouvert le feu dans plusieurs localités frontalières du sud. 22 personnes sont mortes et 125 ont été blessées en tentant de regagner leur village. Les habitants qui espèrent ce lundi y parvenir, des villages toujours occupés par l'armée israélienne. Paul Ralifet.
La situation reste tendue dans le sud du Liban, où des habitants s'apprêtent ce lundi à marcher sur leur village encore occupé par l'armée israélienne. Des appels à la mobilisation ont été lancés par des maires et des élus locaux pour organiser des rassemblements aux entrées de plusieurs localités, essentiellement dans les secteurs central et oriental de la frontière. Le Hezbollah a apporté son soutien au mouvement des habitants qu'il a qualifié de spontané. La foule qui a forcé dimanche les entrées des villages brandissait pourtant des drapeaux du parti chiite et des portraits de son chef Hassan Nasrallah, assassiné le 27 septembre par Israël. Ces événements ont pris de court l'armée libanaise, qui a tenté dans un premier temps d'empêcher les habitants d'avancer vers les zones encore occupées avant de se joindre à l'élan de la foule. Les soldats libanais ont accompagné cette marche du retour sous le feu de l'armée israélienne et se sont déployés dans 18 villages qu'ils n'avaient pas encore atteints. Les dirigeants libanais se retrouvent ce lundi dans une situation embarrassante. Ils sont coincés entre l'annonce par la Maison-Blanche de la prorogation du délai du retrait israélien jusqu'au 18 février et la détermination des habitants à regagner leur village. Paul Khalifeh, Beyrouth, RFI.
Toujours au Proche-Orient, les Palestiniens déplacés au sud de l'enclave gazaoui commencent à regagner le nord. Après un déblocage des négociations avec Israël hier soir, des milliers de déplacés chassés par 15 mois de combat ont regagné le point de contrôle de Netzarim, Israël qui accusait jusqu'ici le Hamas de ne pas avoir tenu parole et de ne pas avoir libéré une otage civile prioritaire, de ne pas avoir non plus fourni la liste des otages précisant lesquels sont vivants et lesquels sont morts. Un retour de déplacés à Gaza vécu comme une victoire contre les projets de déplacement et contre les plans d'occupation, déclare ce lundi le Hamas. En République démocratique du Congo, après une période d'accalmie, les tirs ont repris ce matin à Goma, tirs d'artillerie lourde dans le centre de la capitale du Nord Kivu. Selon nos informations, des combattants du M23 et des membres des forces spéciales rwandaises sont présentes dans certains quartiers de Goma. Des scènes de pillage sont également signalées, ainsi qu'une tentative d'évasion à la prison gomatracienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui condamne cette nuit le mépris éhonté de la souveraineté congolaise. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a clairement mis en cause Kigali hier soir. Des bus sont aujourd'hui à la frontière pour évacuer du personnel de l'ONU venant de Goma. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies en RDC fait lui part de sa profonde inquiétude. Bruno Le Marquis qui appelle les parties au conflit à mettre un terme au combat qui se déroule dans ces zones densément peuplées, notamment autour des camps de déplacés.
J'appelle toutes les parties au conflit à mettre un terme immédiat à l'escalade militaire. Cette violence exacerbe les souffrances des populations de l'Est de la RDC et aggrave les conditions déjà précaires des civils. La communauté humanitaire exhorte la communauté internationale à identifier ses efforts pour faire face à la crise humanitaire et sécuritaire qui s'aggrave rapidement. En attendant la cessation des hostilités, elle appelle à des pauses humanitaires temporaires dans les zones les plus affectées et les plus à risque afin de permettre l'évacuation des blessés et des civils des zones de combat actifs. Au nom de la communauté humanitaire, je rappelle à toutes les parties au conflit armé les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire. Les civils, ainsi que les infrastructures civiles fournissant des services essentiels, ne doivent jamais être prises pour cible. Les civils doivent pouvoir accéder à l'aide humanitaire en toute sécurité et dans la dignité.
Des propos recueillis par Guillaume Thibault. La situation évolutive à Goma, retrouvée en temps réel sur notre site internet, direction le www.rfi.fr. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, le 27 janvier 1945. On revient ce matin sur la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, l'armée rouge qui repoussait l'ennemi allemand vers l'ouest et qui poussait les grilles du camp. Camp de concentration et d'extermination où plus d'un million et demi de personnes ont été méthodiquement tuées par le régime nazi entre 1940 et 1945. Nous n'oublierons jamais les 6 millions de juifs assassinés de sang-froid et toutes les victimes de la Shoah, a déclaré ce dimanche Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. 54 délégations se représentent à Auschwitz ce lundi, le camp qui est aujourd'hui le plus visité de Pologne avec 2 millions de visiteurs annuels. La petite ville d'Oświęcim, rebaptisée Auschwitz par les Allemands, est aujourd'hui encore meurtrie par son terrible passé. Notre correspondant en Pologne, Adrien Sarla, est parti à la rencontre des habitants sur place. Reportage.
Derrière le comptoir de son café sur la place centrale d'Oświęcim, Amelia, 21 ans, prépare des infusions à la cannelle et au citron pour des touristes venus visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau. Un endroit hautement symbolique qui fait partie du décor depuis bien longtemps pour la jeune fille.
Quand j'étais jeune avec mon père, on allait souvent autour des camps en vélo pour jeter un œil. J'entends souvent dire que personne n'habite à Auschwitz-Birkenau, car qui pourrait bien habiter là-bas? Mais j'ai même une amie qui habite à la lisière du camp et je passais devant à chaque fois que j'allais chez elle.
De l'occupation allemande, elle ne connaît que le camp de concentration et d'extermination qu'elle a visité plus d'une fois avec l'école. Et Miroslav Ganobis, lui, a passé les 40 dernières années de sa vie à documenter la vie juive qui façonnait l'identité d'Oświęcim avant qu'elle ne devienne le théâtre de la Shoah.
Quand ma mamie m'en parlait, j'étais fasciné par cette histoire qui était pour moi un peu comme une énigme. Et pour la résoudre, j'ai rencontré de nombreux habitants d'Oświęcim. Je leur ai demandé à quoi ressemblait la ville avant. Et ils m'ont raconté, ils m'ont montré de vieilles photos. Et j'ai même fouillé les appartements d'époque à la recherche de traces de cette histoire.
Aujourd'hui, les 4000 vestiges qu'il a pu glaner au fil des ans sont exposés dans sa cave, transformés en musée miniature. Comme pour garder une trace de cette histoire difficile, dont il ne restera bientôt plus aucun témoin. Adrien Sarla, Oświęcim, RFI.
RFI mobilisé tout au long de la journée pour les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Nous retrouverons surtout nos invités autour d'Anne Kantner à la mi-journée. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver en vidéo l'interview de Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz, sur les réseaux sociaux de RFI. On termine à Bruxelles. Réunion ce lundi des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour renouveler les sanctions de l'UE contre la Russie, qui expire le 31 janvier. Mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban menace d'y opposer son veto. Ce n'est pas la première fois qu'Orban exige la fin des sanctions contre Moscou. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a toujours fini par les voter, après avoir obtenu des concessions de Bruxelles. Réputé proche du Kremlin, le dirigeant hongrois continue de jouer un drôle de double jeu, Florence Labrouillère.
Viktor Orban s'oppose à la reconduction automatique des sanctions contre Moscou. Il serait prêt à les voter, mais en échange, il exige la réouverture du gazoduc qui traverse l'Ukraine. Malgré la guerre, ce pipeline transportait le gaz russe vers l'Europe centrale et la Hongrie. Fin décembre, Kiev a fermé le robinet, préférant renoncer à encaisser les droits de transit plutôt que d'acheminer le gaz russe. D'où la colère de Viktor Orban.
Nous demandons à l'Union européenne de dire aux Ukrainiens de rétablir le transit du gaz. Cette question ne concerne pas l'Ukraine, ça concerne l'Europe centrale. Et si les Ukrainiens veulent de l'aide, par exemple en sanctionnant les Russes, alors ils doivent réouvrir le robinet et permettre à la Hongrie de recevoir ce gaz, car nous en avons besoin.
En réalité, la fermeture du pipeline n'est pas si importante pour la Hongrie, car Budapest reçoit la majorité de ses importations de gaz russe via la Turquie. Alors pourquoi Viktor Orban s'oppose-t-il aux sanctions? Certains l'accusent de jouer le jeu du Kremlin. Et puis le dirigeant hongrois sait qu'il peut monnayer son veto en échange de concessions envers Budapest. En tout cas, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche rebat les cartes, car le président américain a fait planer la menace de nouvelles sanctions contre Moscou si la Russie ne négocie pas la fin de la guerre avec l'Ukraine. Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
Et un mot de football pour terminer, et le carton du Barça en Liga. Festival 7 buts à 1 face à Valence, des Catalans qui renouvellent avec le succès en championnat. Après 4 matchs sans victoire, Barcelone qui revient à 7 points du Real, toujours leader, après cette 21e journée. Et puis en France, Marseille qui a désormais 10 points de retard sur le PSG. L'OM battu 2-0 à Nice hier soir. Et puis au sommet du classement, le leader des auditeurs, revoilà Juan Gomez, que vous retrouvez donc pour appel sur l'actualité.
Merci mon cher Martin Guest. Très bonne journée. Il est 8h10 en temps universel, 9h10 à Paris. Restez avec nous comme tous les matins à cette heure-ci. RFI vous donne la